Depuis plus de 27 ans, Profil est la référence en rock progressif. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Vous vous intéressez aux différents genres de rock? Eh bien, je vous donne rendez-vous le mercredi de 20h à 22h aux quatre coins du rock. René Boudreau, je vous y attends.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 12 avril 2024. La Ville de Québec annonce la dénomination de deux rues dans Vanier, les rues Huguette-Boulet et Louise-Verret. Le comité de commémoration et de toponymie de la Ville a retenu ces propositions qui rendent hommage à ces deux femmes qui ont été des actrices majeures dans la vie communautaire de Vanier. Huguette Boulet s'est impliquée dans le domaine de la sécurité alimentaire dans le quartier. Elle a entre autres fondé la Butineuse de Vanier qui offre repas et collations aux enfants du quartier ainsi que divers ateliers. Pour sa part, sœur Louise Verret est une ancienne enseignante qui s'est impliquée dans le domaine de l'intégration et de la réinsertion sur le marché du travail ainsi que dans le soutien aux personnes assistées sociales. Les deux rues sont situées près de Place Fleur-de-Lys. Avec le temps plus doux, plusieurs citoyens et citoyennes songent à l'entretien de leur terrain. La Ville de Québec vous informe que la collecte des feuilles et résidus de jardinage débutera lundi pour se poursuivre jusqu'au 10 mai 2024. Les résidus collectés ce printemps seront valorisés en champs. On recommande de déposer vos résidus dans des sacs en papier autant que possible, puisqu'ils sont compostables. Autrement, les sacs en plastique orange ou transparent sont toujours acceptés. Étant donné que la collecte se fait manuellement, on demande enfin de ne pas surcharger les sacs. Vous pouvez déposer les sacs de feuilles en bordure de votre terrain à partir de ce dimanche 14 avril. La Ville rappelle également que vous pouvez pratiquer l'herbicyclage et le feuillicyclage en passant la tondeuse sur votre terrain. Plus besoin donc de ramasser feuilles et gazon, ils deviennent un engrais naturel. Tous les détails au ville.quebec.qc.ca/collecte-feuilles. Parents, préparez-vous, les inscriptions au camp de jour de la Ville de Québec débuteront lundi. Ce sont les différents organismes gestionnaires qui gèrent les inscriptions à leur camp de jour. Il faut vérifier auprès de ces organismes les documents nécessaires et les détails pour les inscriptions. La liste de ces organismes est disponible sur le site de la Ville de Québec. Ce soir, le professeur de philosophie Alain Deneau présente la conférence « L'économie de la pensée dans la philosophie de l'argent » de Georges Simmel. La conférence est présentée par le Certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale. C'est au pavillon de Coninck de l'Université Laval, au local 1157 à 19h. À notre antenne ce soir dès 18h, c'est Pop Velours, une sélection de musique indie-pop planante par Maggie Lennon. De 19h à 21h, le vieux show et sa machine à voyager dans le temps vous ramènent dans les années 60, 70 et 80. À 21h, Jean-Pierre Grenier présente une sélection speed, trash et metal à l'émission Vague 80. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bon vendredi à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Thank you. simplicité. Parfois le dimanche, j'entendais les cloches de Lincoln, d'Acton, de Bedford ou de Concorde, selon le sens du vent. C'était une mélodie légère, douce et presque naturelle, digne d'importation dans la nature sauvage. À partir d'une certaine distance, ce son filtré par la forêt se pare d'une sorte de vrombissement vibratoire, comme si les aiguilles des pins qui se découpent à l'horizon étaient des cordes d'une harpe que cette onde animerait. Tout son perçu à la distance la plus grande possible produit toujours un seul et même effet, une vibration de la lyre universelle, exactement comme l'atmosphère interstitielle rend une crête de montagne passionnante à nos yeux par la nuance d'azur dont elle vient de teinter. Me parvenait alors une mélodie tout étirée par l'air, une mélodie qui avait conversé avec chaque feuille et chaque aiguille de la forêt. Me parvenait cette fraction du son que les éléments avaient extraite et modulée et renvoyée en écho de vallée en vallée. L'écho d'un son devient, dans une certaine mesure, un son original, et c'est en cela que réside sa magie et son charme. Ce n'est pas la simple répétition de ce qui valait la peine d'être répété par le son de la cloche, c'est aussi, partiellement, la voix de la forêt. Les mêmes phrases et les mêmes notes triviales chantées par une nymphe sylvestre.
sera.
Si je ne suis pas moi, qui le sera?
Si je ne suis pas moi, qui le sera?
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité. Encore une fois, ça va aller à la fin du mois d'avril où Jacques Sénécal viendra pour nous parler d'Épicure, qui est un peu le philosophe, on pourrait dire, de la simplicité volontaire. Là. En tout cas, le philosophe le plus près de la simplicité volontaire. Les philosophes, en général, dans l'Antiquité, étaient des simplicitaires, mais en tout cas... Selon Jacques Sénécal, c'est Épicure qui est le philosophe le plus près de la simplicité volontaire. Alors, dans les actualités cette semaine, il y avait dans le Devoir de mercredi, la Suisse condamnée pour inaction climatique. Cette décision historique, juridiquement contraignante, devrait faire jurisprudence dans les 46 États membres du Conseil de l'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu mandat un arrêt historique en condamnant pour la première fois un État pour son manque d'action face au changement climatique, en l'occurrence la Suisse. Une décision qui s'appliquera dans les 46 États membres du Conseil de l'Europe. L'arrêt d'aujourd'hui est un arrêt historique et nous sommes vraiment très heureuses d'avoir porté ceci jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, a lancé Anne Maher, l'une des militantes écologistes suisses qui ont fait condamner Berne. Maintenant, nous allons être extrêmement attentives à ce que la Suisse mette en œuvre la décision. Ce n'est que le début, a prévenu Greta Thunberg, présentée à Strasbourg. Partout dans le monde, de plus en plus de gens traînent leur gouvernement devant les tribunaux pour les tenir pour responsables de leurs actions. En aucun cas, nous ne devons reculer, nous devons nous battre encore plus parce que ce n'est que le début, a lancé la jeune militante suédoise pour le climat. Autre article intéressant dans le Devoir d'hier, de jeudi, tantôt, dans le bulletin de nouvelles, on entendait concernant les feuilles de... C'est un peu absurde de ramasser les feuilles. N'importe quel biologiste vous le dira. Et c'est rendu que la ville recommande de ne plus les ramasser, tout simplement passer la tondeuse. C'est en dessous des feuilles. Moi, même, je vais laisser un peu pousser l'herbe avant de passer la tondeuse. Parce qu'en dessous des feuilles, il y a tout un écosystème une vie microbienne et des insectes, en fait. Et tout ça contribue à créer un écosystème qui est favorable aux insectes, pollinisateurs, etc., etc. Donc, on ne ramasse plus les feuilles. Mais aussi, on parle de arrêter le gazon, l'arrêter de faire pousser le gazon. Le gazon, la guerre à la pelouse doit avoir lieu au nom de la biodiversité, selon la Fondation David Suzuki. Il faut faire la guerre au maudit gazon. Une part de la révolution verte passera par l'élimination de la traditionnelle pelouse, l'élément central, mais écologiquement critiquable, de l'aménagement urbain depuis plus d'un siècle, ici comme dans le reste de l'Amérique du Nord. L'arrosage des zones gazonnées compte pour le tiers de la consommation d'eau résidentielle aux États-Unis. Ces espaces faussement naturels reçoivent 10 fois plus de pesticides par acre que les cultures agricoles, alors que ces produits nocifs anéantissent les abeilles pollinisatrices. En plus, la tonte de l'herbe favorise l'augmentation d'espèces nuisibles qui nécessitent toujours plus de pesticides dans un ridicule cercle très vicieux. Bref, les pelouses consomment énormément de ressources pour finalement constituer un écosystème médiocre. Au Québec, le gazon accapare entre 8 et 20 % de l'espace dans certaines grandes villes. En s'appuyant sur ces constats, la Fondation David Suzuki lance jeudi la campagne « Partage ta pelouse » pour sensibiliser les propriétaires, les paysagistes et les municipalités aux besoins de modifier les zones gazonnées afin de créer de nouveaux habitats biodiversifiés. La campagne médiatique résume son objectif par ce slogan « La nature chez soi, une pelouse à la fois ». Alors, moi, c'est ce que j'essaie de faire, là, de finalement, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça aussi, d'introduire une diversité d'autres plantes, si c'est possible, même des plantes indigènes. Et en fin de compte, créer une sorte d'environnement naturel qui est plus intéressant que la pelouse, qui est beaucoup plus écologique. On avait des articles aussi sur les migrations, les changements climatiques vont entraîner notamment beaucoup de migrations des endroits où qui sont devenus de plus en plus difficiles à habiter. Alors, il y a une arrivée massive partout dans le monde de demandeurs d'asile. Et là, il y avait un article là, sur les Pays-Bas, la Hollande, qui a de la difficulté là, à fournir tout ce que c'est qui est le filet social à tous les nouveaux arrivés. Le filet social des Pays-Bas est très généreux. Donc, on voit là qu'il y a on commence à faire face à qu'est-ce que c'est les inégalités dans le monde, le partage de nos richesses. On vit dans une espèce d'abondance dans les pays développés que les gens dans les pays moins développés n'ont pas. Puis quand on arrive ici, on se rend compte qu'on n'a peut-être plus les moyens d'avoir le même filet social. En tout cas, ça va être un autre impact là, des changements climatiques qu'on va devoir, à quel on devra faire face. Ensuite, dans le Devoir de mardi, le 9 avril, un article de Dominique Lamontagne, qu'on connaît bien, qui a écrit un livre là, sur les fermes, les petites fermes. Il se dit écrivain paysan vers l'empaysannement du monde. Nos milieux de vie se désagrègent pour simplement survivre et reprendre nos libertés perdues. Et il nous faut de toute urgence échafauder une nouvelle économie de la nature, inscrite, celle-là, dans la durée. Pour ce faire, je crois que nous devons accepter de quitter peu à peu les métropoles, remettre la main à la pâte et parsemer nos milieux naturels de petits villages semi-autonomes, à l'intérieur desquels les habitants tiendront feu et lieu. Grâce à l'exploitation judicieuse des ressources naturelles offertes par les écosystèmes au cœur desquels ils se seront inscrits, les habitants de ces biorégions, zones géographiques dont les caractéristiques écologiques distinctes permettent l'autonomie élémentaire de ceux qui l'occupent, pratiqueront une omniculture responsable. Voilà le terme que j'emploie désormais pour qualifier l'éventail des rapports économiques de type alimentaire, vestimentaire, énergétique ou autre que nous devons instaurer entre l'humain et la nature dans son intégralité, qu'elle soit animale, végétale, minérale, pour durer. Dominique Lamontagne nous parle un peu de son lien avec les animaux. J'ai une petite résistance, mais je peux comprendre. Il est un peu critique par rapport aux gens qui sont végétaliens, qui ont pas consomment pas de produits de source animale. Lui, il pense qu'on devrait, dans les petites fermes, on doit faire ça. Là, il y a quand même un débat que ça suscite, mais il y a du vrai, je trouve, dans le sens de pas agrandir les villes, l'étalement urbain, ça, faut éviter ça, mais plutôt réduire, condenser, concentrer les villes, avoir des villes plus concentrées, moins étalées, puis à la place, créer en région des petites villes ou des petits villages qui, comme un peu comme on avait au Moyen-Âge, où il y aurait une espèce de développement biorégional en fonction de la biologie, de la biodiversité de l'endroit. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est dans Le Devoir de mardi, un article, un texte de Dominique Lamontagne, vers l'empaysannement du monde. Puis enfin, bien évidemment, le grand événement de la semaine, C'était l'éclipse lundi dernier. Et j'ai eu la chance d'en profiter. Je me suis déplacé à Saint-Georges, où il y avait beaucoup de gens, pour voir l'éclipse totale. Et ça vaut vraiment la peine. Il y a une grosse différence entre l'éclipse partielle puis l'éclipse totale. C'est un spectacle qui est fabuleux. Et il y a toutes sortes de phénomènes. Il y avait un article justement lundi dernier avant l'éclipse qui parle des différents phénomènes qui se produisent durant l'éclipse. Alors, il n'est pas surprenant que les températures chutent pendant une éclipse. Après tout, le soleil est bloqué par la lune, ce qui signifie que l'insolation, c'est-à-dire le rayonnement solaire entrant, est moins important pour chauffer le sol. Moi, on a vu ça, là, plusieurs degrés, on est allé chercher nos manteaux, plusieurs degrés de baisse de température au moment de l'éclipse totale qui a duré environ 2 minutes et demie. Ensuite, les nuages disparaissent. La réduction de la température entraîne un refroidissement de la couche limite, c'est-à-dire de la partie de l'atmosphère terrestre en contact avec le sol et chauffée par celui-ci. Lors de l'éclipse, la lumière du soleil diminue et finit par disparaître. Elle cesse de chauffer le sol, qui à son tour cesse de chauffer la basse atmosphère. La couche limite peut cesser de s'étendre verticalement et les courants ascendants des trous d'air flottants se déplaçant vers le haut ralentissent en raison de l'absence de chauffage. On a vu ça, des gens qui avaient choisi d'aller à Niagara Falls ont mal choisi, là, ben, ils ont mal tombé, disons. Le ciel était couvert. Il y avait des nuages. Mais apparemment, au moment de l'éclipse totale, ils ont eu quelques instants où ils ont pu observer l'éclipse totale. Puis une des raisons, probablement, c'est que au moment de l'éclipse totale, les nuages disparaissent légèrement. Alors, ils ont vu le soleil, finalement, c'est l'anneau solaire qu'on voyait à travers les nuages. Augmentation de l'humidité relative. Pendant les éclipses, l'humidité relative augmente. Rien n'ajoute de l'humidité dans l'air, mais lorsque l'air se refroidit, il ne peut plus retenir autant d'eau, ce qui signifie que l'humidité qu'il contient alors représente une plus grande proportion de sa capacité totale. Lors de l'éclipse totale de 2017, l'humidité relative à Moose au Wyoming est passée de 31 % avant l'éclipse à 51 % 40 minutes plus tard. Ensuite, les vents changent. En 2017, les chercheurs ont confirmé l'existence d'une vent d'éclipse. En substance, le passage de l'ombre sur la Lune refroidit l'air, le fait descendre. L'air situé en dehors de la zone d'ombre continue à s'élever. Il en résulte une circulation locale de retournement. On a vu ça aussi pendant l'éclipse totale. La haute atmosphère est perturbée. L'éclipse a également des répercussions en altitude dans l'ionosphère. Une couche d'électrons et d'ions libres située à environ 60 à 300 km au-dessus du sol est capable de réfléchir les ondes radio. Les éclipses solaires totales produisent des ondes de proue. Alors ça aussi, je ne peux pas dire qu'on l'a senti, mais apparemment, il y a une espèce de vibration qui est créée par l'éclipse. Puis aussi, dans les autres phénomènes, c'est qu'on a vu une planète apparaître. Là. Évidemment, une espèce de pénombre. On a vu aussi même des oiseaux qui se sentaient déconcertés. Ils pensaient que la nuit était arrivée tout d'un coup. J'ai vu des outardes se lever puis s'éloigner parce que c'est comme s'ils disaient, on n'est pas supposé d'être où on est là. La nuit, nous, on dort ailleurs, ils sont partis. Puis j'ai l'impression que je les ai vus revenir parce que ça dure deux, trois minutes après que le soleil est revenu. En bref, les éclipses solaires totales représentent un spectacle rare et magique. On ne se contente pas d'assister à une telle éclipse, on la vit. Pour cela, il faut remarquer les changements météorologiques, l'environnement ambiant, etc. À quoi cela ressemble-t-il? Comment se sent-on? Chaque petit détail se transforme en une expérience inoubliable pour ceux qui ont la chance de se trouver sur la trajectoire de l'éclipse totale. Et en plus, nous au Québec, on a eu une journée parfaite pour ça lundi dernier. Soleil, le ciel totalement dégagé. température d'environ 12 à 15 degrés, très confortable, qui a baissé pendant quelques minutes durant l'éclipse, qui est remonté. En tout cas, bref, on a eu droit à un très beau spectacle. Et si vous n'avez pas pu voir l'éclipse totale, vous devrez vous déplacer parce que, à moins que vous soyez très jeune, la prochaine éclipse totale au Québec est prévue pour l'an 2106. Alors voilà. Donc, petite pause musicale. Et on poursuit avec la puissance des liens. C'était Monday Monday de Mamas and the Papas. Petit clin d'œil à lundi dernier. Alors, c'est ça, je vais poursuivre ma lecture du livre La puissance des liens. Ça fait quelques semaines là, que je vous en lis des extraits. C'est un beau livre pour concernant la simplicité volontaire parce qu'on a beaucoup tendance à penser de la simplicité. D'ailleurs, je vous en parlais, le livre sur la déconsommation qui parle beaucoup de l'aspect réduire sa consommation, mais c'est l'aspect, je dirais, négatif. Qu'est-ce qu'on fait moins, mais qu'est-ce qu'on fait plus par rapport à la simplicité volontaire, c'est d'essayer de créer des liens. Les liens, c'est une richesse. C'est ce qui nous permet d'apprécier la vie. Et on dit d'ailleurs qu'on a un dicton en simplicité volontaire, plus de liens, moins de biais. En anglais, ils disent « more connections, less possessions ». Alors, les liens, c'est très important par rapport à la simplicité volontaire. Puis c'est un livre qui porte justement là-dessus, la puissance des liens, aux éditions Iconoclaste, sous la direction d'Elios Koutsou et Caroline Le Cire. Mais il y a plusieurs auteurs qui participent. C'est un ouvrage collectif. Christophe André, Ad Ben Nourbidar, Fabienne Brugère, Boris Cyrulnik, Rebecca Shanklan et Mathieu Ricard. Alors, je vous lis quelques extraits. Alors, on parle de nos séparations. La séparation avec la nature, nous vivons séparés de la nature. C'est le premier lien déchiré que nous pouvons réparer dans le fil de la grande cause écologique. Mais actuellement, si nous cherchons à retrouver ce lien à la nature, nous le faisons souvent de façon intellectuelle, rationnelle. On nous dit de sauver la planète, de trier nos déchets, de veiller à notre empreinte carbone, de moins consommer, ce qui est sans doute nécessaire. Mais qu'en est-il de l'éveil de notre sensibilité? Sommes-nous capables à nouveau d'entendre ou de sentir le sanglot de la terre qui pleure, comme disait Thich Nhat Hanh? Sommes-nous capables de recevoir en nous la puissance créatrice de la nature? Sommes-nous capables de contempler la grande harmonie du cosmos, d'inscrire notre action dans la sienne, comme l'instrumentiste s'accorde à l'orchestre, et d'y participer consciemment en faisant notre part de sa grande œuvre de beauté, d'ordre, de justice et de paix? Les vieilles sagesses nous rappellent que l'homme n'est rien tout seul. La séparation avec autrui, l'autre lien à restaurer concerne autrui. Nous vivons dans des sociétés individualistes et communautaristes en guerre armée, économique ou culturelle les unes contre les autres. Nous assistons à la multiguerre des multi-identités. Il suffit d'avoir une culture, une religion, une idéologie, quelle qu'elle soit, pour qu'aussitôt nous en fassions un motif d'exclusion de ceux qui n'appartiennent pas à notre groupe et que nous entrions en guerre vis-à-vis de celui qui n'a pas la même identité, pas la même culture, pas la même religion, pas la même idéologie, et tout cela sur la base d'une séparation de plus en plus indécente entre les classes sociales, entre les riches et les pauvres, à l'intérieur de nos propres sociétés occidentales, et évidemment à des échelles aggravées, planétaires, entre sociétés plus ou moins développées économiquement. Et les appels à davantage d'humanité, de tolérance, de partage restent vains. Ne produisent que des résultats insuffisants parce que nos éducations n'ont pas du tout ou assez ouvert nos cœurs, pas assez éveillé en nous le sens de la fraternité universelle. La séparation avec soi, le lien avec soi est aussi en souffrance et il est lui aussi à restaurer. Il s'agit de relations que l'on a avec son propre cœur, un cœur entendu au-delà même de la capacité à ressentir ou éprouver quelque chose, comme un organe spirituel qui nous relie à l'infini, à l'infiniment plus grand que soi, à ce qui est au-delà de l'espace et du temps, à l'origine de toute chose. Mais là encore, quelle éducation a trouvé son cœur, recevons-nous? Qui nous apprend à vivre selon ce qui jaillit de notre cœur? Quel exercice spirituel pratiqué au quotidien peut libérer dans notre existence tout entière sa source de vie, d'amour et de puissance? Car le cœur n'est pas seulement un organisme physique, un organe physique sensible. Il nous relie à une profondeur à côté de laquelle la profondeur de l'univers lui-même n'est qu'une surface. Et du côté de cette profondeur, de cette origine, il y a une fontaine de miséricorde issue d'une source mystérieuse d'où surgissent l'univers et son harmonie. Mais laquelle de nos méditations nous apprend à creuser assez profond pour libérer son jaillissement? Nous vivons des existences qui, hélas, sont rarement alignées entre ce plus profond intérieur et l'extérieur, où l'eau fondamentale ne s'écoule pas de nos cœurs, à nos pensées jusqu'à nos actes. Nos engagements, si sincères soient-ils, nous ressentons dès lors comme une souffrance entre ce que nous sommes et ce que nous faisons, et nous remplissons ce vide avec des consommations extérieures. Nous souffrons aussi d'une société qui ne nous donne pas l'occasion, dans notre travail, de chercher, puis de libérer et d'engager la ressource de ce moi si profond, mais qui nous conditionne et nous condamne à ne vivre qu'en surface de nous-mêmes. Ainsi, nous restons si faibles, si fragiles, que nous devenons une proie toujours plus facile pour toutes les dominations, exploitations, aliénations, illusions qui prolifèrent dans notre monde d'aujourd'hui. Jacques Sénécal en parle souvent de ça, c'est l'influence de la publicité qui nous contrôle, c'est comme une espèce d'idéologie qui s'empare de nous, qui nous dit qu'il faut acheter certains produits pour être heureux. Pour résister à cela, pour être plus fort que ce qui nous tue, nos grands liens sont des canaux. Ils nous relient et à des énergies dans lesquelles nous serons, hélas, toujours plus impuissants et deviendrons plus encore des proies pour les prédateurs de toutes les dominations, de toutes les aliénations, à commencer par les aliénations consuméristes, mais aussi les aliénations politiques. L'enjeu du spirituel, c'est-à-dire l'enjeu de la puissance des liens, est inséparablement un enjeu politique. Voilà pourquoi il est urgent et nécessaire, me semble-t-il, que nous réfléchissions ensemble, que nous méditions ensemble à partir de la ressource la plus intérieure à la façon dont nous allons pouvoir reconstruire des vies authentiquement humaines, retisser nos liens essentiels, nos liens de vitalité, nos liens de lucidité, nos liens de lumière, les liens qui nous engagent dans le monde de façon à la fois intelligente, généreuse et amoureuse. Alors, plus loin, bien, on dit « Seuls, nous ne sommes rien. Il en va de notre responsabilité de réparer les liens. Mais n'appréhendons pas le terme de responsabilité seulement en son sens moral ou éthique. Entendons que derrière la notion de responsabilité se cache aussi le pur et simple besoin essentiel. Pour nos âmes, de respirer à nouveau et de renaître grâce à tous ces liens que nous allons renouer. Je prépare la prochaine pause musicale que j'ai oublié de préparer. Alors, on va prendre une petite pause musicale dans quelques instants. Puis, je vais poursuivre avec Toro Yogi des Bois. Alors, je termine mon extrait avec les liens, puis on revient avec Toro Yogi des Bois. Alors, ici, un peu plus loin, on parle de Martin Buber, qui est un philosophe qui s'est intéressé à ça, aux liens. Dans son extraordinaire ouvrage « Le chemin de l'homme », le philosophe Martin Buber indique que dans la vie spirituelle, il s'agit de commencer toujours par soi, vers plus grand que soi, et de commencer par soi, mais ne pas se prendre pour but. Voilà où se loge la puissance des liens, dans leur capacité à nous hisser vers plus grand que nous-mêmes. Le lien à soi-même n'est pas ici un rendez-vous narcissique de l'ego avec lui-même, ni un ego trip. C'est une sortie de soi vers l'intérieur qui m'amène vers quelque chose qui est infiniment plus grand que moi-même, en moi-même, comme le disait saint Augustin. La conscience divine, seule réelle, mais qui a fait cette expérience, qui a vécu cette expérience intime? Socrate lui disait, « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. » La relation à l'autre m'invite, elle aussi, à aller vers plus grand que moi, à me déconcentrer, à me déségotiser, c'est-à-dire à quitter mon ego et à faire davantage attention aux autres. Elle est aussi une école de la transcendance vers ce qui me transcende au double sens où je vais vers quelque chose qui me dépasse, dans laquelle je me surpasse pour me trouver au-delà de moi-même. Comme le dit le sage soufi Rumi, je suis entré dans la maison en me laissant au dehors. Et là m'attendait l'origine de mon origine. la fraternité, la compassion, le dévouement, la disponibilité, le désintéressement, le partage, le dialogue me conduisent à l'autre et continuent de faire grandir mon lien à moi-même. Alors, on va prendre une petite pause musicale et je vais poursuivre avec Toro Yogi des Bois. Alors, pour ceux que ça intéresse, ce que j'ai lu, c'est la puissance, le livre La puissance des liens, sous la direction d'Ilos Kotsou et Caroline Le Cyr. C'est aux éditions L'Iconoclaste.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just watch your soul. You're going to reap. Just watch your soul.
Petit rappel, c'est la pièce de Lou Reed, Perfect Days, ou Jour parfait. Et c'est ça, c'est un petit rappel de, pour ceux qui n'ont pas vu le film Les Jours parfaits. Et toujours en, au clap, aujourd'hui, je pense demain, mais je pense que ça se termine demain. En tout cas, il faudrait que vous alliez vérifier. C'est un très beau film sur la simplicité volontaire, sur le Japon. Ça fait plusieurs fois que je vous en parlais, puis vu que je voyais que ça achevait, je voulais en profiter pour faire un petit rappel là, avec cette pièce de Lou Reed qui, justement, est fait partie de la trame musicale du film, mais c'est une belle trame musicale qu'il y a, ce film-là, qui se passe à Tokyo. Bon, alors, comme je vous disais, on va poursuivre avec le très beau livre sur Taureau Yogi des Bois, dont je vous lis à chaque émission, en début d'émission, des extraits de son œuvre maîtresse Walden. Puis, dans ce livre-là, Taureau Yogi des Bois, qui est un livre de Colette Poggi, P-O-G-G-I, aux éditions Équateur, l'auteur nous explique que Taureau pratiquait le yoga, oui, c'est probablement un des premiers pratiquants de yoga en Amérique au 19e siècle. Et Madame Poggi, c'est une experte là, en philosophie indienne, donc c'est bien fait son livre. Je vous recommande vraiment. Alors, je vais vous lire, je poursuis un peu la suite de ce que j'avais lu là, la dernière fois. Les exercices que l'on pratique pour atteindre la libération n'ont de valeur qu'à l'usage de ceux qui se montrent incapables d'accéder directement à l'essence universelle. Comme ils sont le jouet de l'attraction et de l'aversion, il leur est impossible de plonger en essence. Ils s'imaginent incapables de cela et donc recourent à des exercices aux pratiques variées. Alors, c'est ça. Étant donné qu'on n'est pas connecté, on doit cheminer. On pratique des exercices spirituels. On en a parlé avec Pierre Adot beaucoup de fois, là, les exercices spirituels. Comment y parvenir? C'est là que les deux écoles divergent. Pour le yoga classique, l'ascèse est l'unique moyen. Puis pour le tantrika, dont Taureau se rapproche, me semble-t-il, ce qu'il faut choisir comme moyen suprême pour un culte véritable, c'est essentiellement tout ce qui épanouit la conscience, la comblant de félicité, si bien qu'une parfaite harmonie s'instaure entre elle avec avec l'univers jusqu'à imprégner pleinement la demeure resplendissante du Brahman, la conscience. Les multiples sources d'émerveillement au sein de la nature, au gré de ses lectures, des sages indiens chinois ou lors de rencontres avec les Indiens d'Amérique pourraient se ranger dans cette catégorie. Vécu à ce degré d'acuité, la sobriété devient plénitude, dedans et dehors, contemplation et action s'égalisent. Taureau fait partie de la forêt et la forêt fait partie de lui. D'ailleurs, le bel extrait que je vous ai lu en début d'émission, c'est ça, là, il entend le son des cloches qui fait réverbérer la forêt, puis ça fait comme une espèce de musique céleste. Il était vraiment connecté avec son environnement. Taureau était vraiment dans le moment présent. Taureau fait partie de la forêt et la forêt fait partie de lui. Dans ce lieu sans égo, son propre moi est comme de l'or en fusion. Il entre dans la trame d'un écosystème de plus de 500 000 ans qui devient terrain d'exploration, de réflexion. Walden et son tapis de yoga, comme tant d'ascètes indiens, hindous, jaïnes, bouddhistes, ils trouvent refuge dans la forêt pour rencontrer la vie, pour se rencontrer soi-même. Oser l'aventure de la métamorphose sans laquelle aucune voie de réalisation n'a de sens. C'est le véritable ferment du yoga que Taureau a pleinement intégré dans sa vie. Il n'y a pas qu'une façon de vivre, mais il y en a autant que de rayons qu'on peut tracer à partir d'un centre. Tout changement est un miracle à considérer. C'est un miracle qui arrive à chaque instant. Il transforme sa vie pour vivre une sobriété en plénitude. Frugalité a pour lui valeur de liberté. Point de privation imposée de l'extérieur, mais recherche de justesse, d'équilibre. On appelle à sanskrit cette qualité propre à tous les domaines, sattva, luminosité, légèreté céleste, transparence, bienveillance. Elle forme, avec la lourdeur, opacité, tamas, et l'ardeur, passion, rajas, une triade fondamentale pour la tradition hindoue. sobriété et liberté, deux faces de la même médaille. La sobriété nous entraîne à la liberté d'être soi et non asservi à des besoins factices créés par la société, la publicité et la consommation. Une rigueur libératrice, garante de santé spirituelle autant que physique. Quelle antique civilisation n'a pas célébré la sobriété? En Inde ancienne, hindous, jaïnes, bouddhistes, l'érigent en valeur suprême, la nomment tempérance. Tempérance dont on a beaucoup parlé avec les anciens Grecs, parlaient de tempérance, de sobriété aussi. Cet ingrédient est en effet indispensable à une vie conforme au dharma, à l'harmonie universelle. Dans les textes sanscrits, le leitmotiv de la tempérance est exprimé par des locutions très diverses. Citons deux exemples évocateurs dans l'univers du yoga. Samyuj, se tenir parfaitement ensemble. Yuj étant la racine de yoga et samatha ou sanmatva, équanimité, égalité d'âme. Le yoga est équanimité, tempérance. Le bonheur de la sobriété crée un espace, pas d'encombrement, mais du vide, de la lumière pour accueillir ce qui vient, ce qui va venir, nous advenir. C'est le sens même de l'aventure, un terme au parfum de futur, la terminaison en ur, ajouté au verbe de mouvement advenio, arriver. Laisser de la place pour l'imprévu. Sans aller jusqu'à vivre dans un tonneau comme Diogène, nous pouvons cultiver notre art personnel de la sobriété en régulant notre consommation grâce à la frugalité. La pauvreté peut devenir richesse, déclarait Sénèque. Prendre le goût à la simplicité en se défaisant de l'inutile surcharge, cela n'a pas de prix, luxe suprême. La sobriété vécue en conscience, accompagne ainsi tout naturellement le pas de côté de taureau. Elle apparaît comme un antidote à l'appropriation matérielle, mentale, affective. Trop, c'est le germe du mal-être. Mal se nourrir, mal gérer les trésors de la planète. Une croissance exponentielle ne peut qu'aboutir à l'absurde. Comment percevoir alors le juste équilibre en toute chose? Si cette connaissance vous manque, cherchez à l'intérieur. En votre simplicité, répond Maître Eckhart. Il y a dans notre nature un fond simple, un désert, une forêt. C'était Vangelis. La pièce, c'était Antarctic Echoes de l'album Polar Shift. C'est un album qui avait été c'est un regroupement de musiciens qui avait fait un album bénéfice pour la protection de l'Antarctique. Alors, l'émission s'achève là-dessus. J'ai lu les extraits, pour ceux que ça intéresse, du livre Yogi, Taureau, Yogi des bois, de Colette Poggi, P-O-G-G-I. J'ai lu des extraits du livre La puissance des liens. C'était un regroupement d'auteurs sous la direction d'Ilios Kotsou, K-O-T-S-O-U, et Caroline Le Cire. Puis, comme à l'habitude, des extraits de Walden en début d'émission de Henri-David Taureau. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On va poursuivre la semaine prochaine. Et dans deux semaines, nous aurons Jacques Sénécal qui va nous parler du philosophe Saint-Plistère Épicure. Alors, bonne semaine à tous.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Le vendredi 26 avril, c'est à la Korrigan que ça se passe. Dans le cadre de la semaine des bières de microbrasserie du Québec, on vous invite à la toute première édition du Tap Takeover Estival de la Korrigan. Dès 16h et pour toute la soirée, ce sont 11 microbrasseries des quatre coins de la province qui prendront le contrôle de nos 13 lignes de fût avec des produits sélectionnés spécifiquement pour l'arrivée de l'été. Tous les détails au korrigan.ca et sur notre page Facebook.
Coupure budgétaire, mise à pied.